Alors que Dieu soit béni. Nous allons examiner quelques points. Nous allons finir tôt pour permettre aux gens de répondre aussi à certains appels. Et nous commençons par Matthieu 16 au chapitre 27. On peut commencer par le verset 24. Matthieu 16. À partir du verset 24, il est écrit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra à cause de moi. Et celui plutôt celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est un verset qui a souvent troublé les chrétiens, ou les a souvent mis en difficulté, parce qu'il est dit que certains ne mourront point parmi ceux à qui Jésus parlait avant qu'ils voient le Fils de Dieu venir dans son règne. Or, on sait bien qu'ils sont tous morts hein, et que le Seigneur n'est pas revenu. Et maintenant, quand on est souvent face à de telles difficultés, c'est bien de chercher des passages qui parle de la même chose aussi. Donc nous prenons par exemple Marc au chapitre 9. Donc utilisez toujours cette sagesse-là de trouver d'autres passages qui parlent de la même chose. Peut-être un autre mot va être employé qui va nous éclairer. Marc au chapitre 9, verset 1er. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc vous voyez ici, ce n'est pas dit, est-ce qu'on peut ouvrir à la personne qui est... Voilà, ici ce n'est pas dit, le Fils de Dieu viendra dans son règne, c'est dit plutôt, le royaume de Dieu vient avec puissance. Or, il s'agit de la même phrase, du même contexte. Hein, il parle aux disciples, quand on lit au chapitre 8, verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, donc c'est le même contexte. Mais ici, ce qui est employé, ce n'est pas le Fils de Dieu qui vient dans son règne, mais c'est le royaume de Dieu qui vient avec puissance. Alors, pour Marc chapitre 9, on pourrait expliquer simplement que le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu est venu avec puissance. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit commencer à agir maintenant librement sur la terre. Et les gens qui ont assisté à ça, ils ont vu avec puissance la manifestation du royaume de Dieu. Et quelqu'un va dire, mais oui, il y a quand même le fait qu'on a dit, Jésus vient dans son règne. Alors, il faut savoir une chose, que lorsque Dieu dit qu'il vient, Ça ne veut pas dire forcément qu'il vient lui personnellement, physiquement. Il peut venir à travers un homme, il peut venir à travers ses actions. Nous avons un exemple très simple dans Exode, au chapitre 2 et 3, où Dieu explique qu'il a entendu les cris des enfants d'Israël et il est descendu pour venir les délivrer. Pourtant, on n'a pas vu Dieu en personne descendre physiquement pour venir délivrer les enfants d'Israël. Donc quand il dit qu'il est descendu pour les délivrer, il était en réalité descendu par qui ? Par Moïse. Et Moïse a fait des actions dignes d'une action directe divine. Séparer la mer Rouge en deux, produire les plaies que nous savons qu'il y a eu en Égypte, sortir l'eau du rocher, faire descendre la manne. Dieu était vraiment descendu par Moïse, mais pas Dieu lui-même physiquement qu'on va voir comme ça. Donc quand on dit que le Fils de Dieu qui vient dans son règne, ça ne veut pas dire forcément, ça peut le dire aussi, mais je veux dire qu'il y a deux possibilités. Ça peut être lui physiquement, mais ça peut être aussi sa manifestation. Or, le Saint-Esprit était descendu pour glorifier le Christ. Donc, le texte de Marc 9 nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas forcément de Jésus-Christ qui descend physiquement en personne. Il s'agit de la manifestation de Jésus-Christ. Et ça a été le cas avec la Pentecôte. La Pentecôte a été une grande manifestation de la réalité de Jésus-Christ. Les gens qui étaient là ont vu quelle était la réalité de Jésus-Christ avec puissance. Il est descendu dans son règne, dans sa gloire. Et quand vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que dans certains passages, il est dit « Dieu nous a visités ». Souvent à travers un prophète, souvent à travers un miracle, les gens disent « Dieu nous a visités ». Mais Dieu n'est pas forcément descendu d'une manière personnelle, mais c'est sa manifestation, c'est sa puissance qui s'est manifestée à un niveau que l'homme ne pouvait pas imaginer. De sorte qu'on puisse dire vraiment là, c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir là. Et c'est ce que Jésus avait promis, il a dit « Mais vous verrez... certains ne mourront pas, le Fils de Dieu manifestera son règne. » Et là, le texte de Marc nous a aidé à comprendre que le fait que le Fils de Dieu manifeste son règne, c'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est l'événement qu'on peut relier le plus proche de ça, c'est la Pentecôte. Quand la Pentecôte a eu lieu, quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, c'était vraiment Dieu lui-même en personne qui était descendu pour une ère nouvelle, une période nouvelle de son action sur la terre, comme il a fait autrefois avec Moïse, aussi comme il a fait autrefois par la descente de Jésus lui-même tout seul, en enfant dans la crèche. On a aussi un autre exemple. Dans Jean au chapitre 1er, nous lisons dans Jean au chapitre 1er, Jean chapitre 1er, alors comme le texte risque d'être long, nous lisons au verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus a une parole de connaissance. Donc quand Nathanaël s'approche de Jésus, puisque c'est Philippe qui est parti chercher Nathanaël, Nathanaël parle à Jésus parle à Nathanaël, lui dit, mais tu es un homme juste. Nathanaël dit, mais comment il sait que moi j'aime Dieu? Comment il sait que moi je suis juste? Jésus dit, mais il y a encore autre chose. C'est que avant que Nathanaël Philippe ne t'appelle, moi je t'avais vu. Donc il devait être certainement à une distance hors du champ de vision, en dehors du champ de vision de Jésus-Christ. Mais Jésus a quand même pu le voir. Alors il était surpris que Jésus puisse le voir alors que physiquement ce n'était pas possible. Jésus dit, mais tu es étonné juste pour ce miracle, cette parole de connaissance. Mais je te dis, je te promets que tu vas voir mieux que ça. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Est-ce qu'il nous est raconté par la suite que les apôtres ou les disciples auraient vu ça, le ciel ouvert et les anges monter et descendre autour du Fils de l'homme? Non, on n'a aucun exemple là-dessus. La seule histoire qui ressemble à ce que Jésus dit, c'est l'histoire de Jacob qui a vu une échelle. Et à travers cette échelle-là, il y a des anges qui montaient et qui descendaient. C'est la seule histoire qu'on peut relier à cette prophétie de Jésus-Christ. Mais il fallait comprendre le fond. Vous savez, quand Dieu agit sur la terre, il agit à travers ses messagers. Il agit à travers ses envoyés, qu'on appelle les anges. Dans Hébreux, au chapitre 1er, on nous explique que les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu qui l'envoient dans des missions sur terre. Et tout à l'heure, on va lire un texte qui confirme cela, qui dit que l'Ancien Testament a été révélé par les anges à Moïse. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il y a un ange qui amène le message. Il parle, il y a un ange qui amène le message. Il veut sauver quelqu'un, il y a un ange qui vient participer à cela. Donc les anges sont continuellement en action. Cependant, dans l'Ancien Testament, leur action était limitée. Maintenant, avec Jésus, du moment où Jésus sera crucifié, l'action des anges allait être multipliée à travers l'action du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus promet aux apôtres, que par lui, vous allez voir beaucoup plus de choses. Donc, il y aura une grande activité angélique, sans forcément qu'on voit ces anges-là physiquement, mais on va voir les fruits du travail de ces anges-là. À partir de la présence de Jésus, de sa présence jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa résurrection, et puis le Saint-Esprit qui vient après, désormais, à cause du nom de Jésus, les anges vont bouger. Vous savez, quand nous faisons les délivrances, on dit, on chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Nous, on ne le voit pas, mais il y a des anges qui viennent appliquer ce que nous, on dit, pour les chasser vraiment. Eux, ils voient tout ça, mais nous, on ne voit pas. Donc, ce travail-là intense des anges est dû à Jésus. À partir de Jésus, donc Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Donc, par Jésus, les anges peuvent librement venir faire leur mission parce qu'ils ont une justification. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour le pardon de nos péchés. Donc cet exemple, je le cite encore pour nous expliquer que quand on dit Dieu, Jésus, ça peut correspondre à leur action puissante. Donc quand j'ai dit que certains verront le Fils de Dieu venir dans son règne, ça veut dire que l'action de Dieu viendra avec puissance par le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément le retour final du Seigneur. Et la Pentecôte est un exemple par excellence de cette promesse-là. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur ce sujet, parce que c'est une question qui m'a été posée. Et d'ailleurs, souvent, bon, quand on était au Maroc, dans les débats entre chrétiens, cette affaire revenait souvent. Mais oui, pourtant, il y a des gens qui sont morts. Et tous ces gens-là sont morts, ils n'ont pas vu Jésus revenir dans son règne. Si Jésus, Dieu est descendu par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et les gens ont vu le règne du Seigneur, ont vu le royaume de Dieu agir avec puissance. Oui, oui.
Tu as parlé de la vision de Jacob avec l'échelle là. Qu'est-ce que tu as dit déjà ?
Que cette échelle-là, en réalité, représentait Jésus. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai expliqué que c'est la seule histoire de la Bible qui ressemblait à la prophétie de Jésus.
Puisque de Jean 1, là.
Voilà, c'est la seule histoire qui ressemblait à ça. Mais en réalité, Jacob avait vu à l'avance la vision du Seigneur. Quoi. L'échelle, c'était le Seigneur lui-même. C'est ça.
Quand Jésus dit ça aux disciples, c'est de son vivant. Est-ce qu'on ne peut pas aussi relier la résurrection de Jésus au fait que le royaume de Dieu
venir. Voilà. Il y a aussi cette possibilité-là. Les gens qui ont interprété ce passage, ils ont émis la possibilité soit de la résurrection, soit de la Pentecôte. D'accord. Maintenant, la résurrection a été quelque chose, c'est vrai, réservé qu'aux disciples. Alors que la Pentecôte, ça a été le royaume de Dieu dans toute sa puissance devant tout le monde. Selon qu'on pense que cette parole est destinée aux disciples, ça sera la résurrection. Si on pense que cette parole c'est et aux disciples et à la foule, donc c'est la Pentecôte. Donc tout dépend de comment on prend cette parole, à qui elle est destinée. Est-ce que c'est destiné aux disciples ou c'est destiné à tout le monde? Si c'est destiné à tout le monde, c'est la Pentecôte qui est l'événement qui correspond le plus. Sinon, ça sera la résurrection que seuls les disciples de Jésus-Christ ont vu et expérimenté, ont contemplé. Voilà, donc on passe à une autre question. Il m'a été posé le problème suivant. C'est beaucoup plus lié aux cultures de l'Asie et d'Afrique concernant l'éducation des enfants. On m'a dit, mais oui, mais comment quand on était enfant, on avait l'impression vraiment que peut-être les parents ne nous aimaient pas parce qu'ils étaient trop sévères envers nous, ils étaient durs. Ça dégageait comme une impression qu'ils ne nous aimaient pas. Et bon, j'ai dit, bon, je vais en profiter pour répondre à tous. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'autoritarisme, ce qui consiste à considérer un enfant comme une sorte de personne sans intérêt et lui donner des ordres à tort et à travers, vouloir le faire obéir comme quand on fait obéir un animal. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique, mais cependant, un enfant a besoin que quelqu'un le prévienne des dangers de ce monde en l'encadrant, en attendant qu'il atteigne l'âge de conscience véritable, d'émancipation véritable, de décision avec discernement. Parce que souvent, l'enfant va décider en fonction de son imagination et non pas en fonction de la réalité. C'est ainsi que, par exemple, quand il voit les pubs qu'on dépose dans nos boîtes aux lettres, les enfants pensent automatiquement que leurs parents ont les moyens d'acheter tout ça. Tout ce qui est sur la brochure de publicité. Donc leur imagination a un rôle prépondérant dans leur vie. Or, la réalité n'est pas l'imagination. Donc il faut des adultes pour limiter les dégâts. Et comment on limite les dégâts ? Eh bien, par la discipline, par les interdictions. et par la correction pour apprendre à l'enfant à ne pas faire ce qui est mauvais. Maintenant, cette correction-là ne doit pas atteindre le niveau de l'autoritarisme, là où on commence à agir avec l'enfant comme si c'était un animal qui doit obéir au pas, au mot. Il faudrait donc faire attention. Donc nous lisons quand même quelques passages. Proverbe 13, 24, je crois. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Celui qui ménage sa verge, celui qui ménage son bâton, il est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, au fait, nous, quand on était enfants, on avait l'impression que les parents étaient contre nous parce qu'ils s'opposaient à nos délires, parce que c'était des délires. Nous, on croyait que c'était des choses normales, mais c'était le fruit de notre imagination, c'était des délires. Et les parents qui étaient dans la réalité vont s'opposer, vont corriger, vont encadrer, vont limiter les dégâts. Et pour l'enfant, ça va être accueilli comme une sorte d'opposition, comme une sorte de contradiction autoritaire, autoritariste, parce que l'enfant ne comprend pas encore les enjeux de la vie, les enjeux de ce monde. C'est pourquoi celui qui ménage son bâton, ben il est son enfant. Celui qui sait corriger, il aime son enfant. Et dans Éphésiens 6, c'est dit aussi, on va lire Éphésiens 6, donc avant la question. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc la correction, fût-ce la correction par la parole ou par le bâton, c'est quelque chose préconisé par le Seigneur pour le bien-être de l'enfant, pour autant que c'est dans le cadre de l'instruction. Lorsque on commence à se lâcher sur les enfants parce qu'on s'est mis en colère, ça, ce n'est pas dans le cadre de l'instruction. La correction va avec l'instruction. Lorsque elle ne va plus avec l'instruction, on tape juste parce que il nous a fait honte ou il nous a énervé. Là, il n'y a pas de lien avec l'instruction. La correction doit être liée à l'instruction. Oui.
Oui, je voulais savoir ce que tu en penses. J'avais lu un article sur les liens externes sur la trompette. Et donc, ils expliquaient par rapport à l'éducation des enfants. Donc, bien sûr qu'on ne devait pas manifester d'autoritarisme, comme tu dis. Mais qu'ils expliquent quand même que par rapport à tous les versets que tu donnes, donc Proverbes, etc., qu'on doit punir toute désobéissance. Donc, c'est-à-dire que l'enfant doit obéir dès que tu donnes un ordre. Tu ne dois pas répéter une fois, deux fois, trois fois. Dès que tu dis un ordre, en fait, il doit obéir. Et s'il n'obéit pas, tu dois le corriger avec la verge. En fait, ils expliquent un peu ça. Et je voulais savoir ce que tu en penses, en fait.
Oui, mais quand ils disent tu dois le corriger avec la verge, il faut à chaque fois taper, ça c'est ce que ça veut dire.
Ils disent ça, oui.
Moi, je pense qu'il faut à chaque fois corriger. Mais corriger ne veut pas dire forcément taper. On peut en arriver à taper, voilà. Mais on doit manifester qu'on est mécontent et qu'on n'est pas d'accord. Ça, il faut le faire. Il faut corriger à tout moment. Et s'il faut taper, taper. Mais taper ne doit pas devenir un système.
Oui, mais quand voilà. Tu dis l'enfant ne doit pas être comme un animal à obéir, tout ça. Est-ce que le fait de répéter un ordre, est-ce que c'est mauvais ou est-ce qu'on doit corriger
non,
dès le début?
Non, puisqu'avec un animal, on ne peut pas discuter. Mais avec un enfant, on peut discuter. C'est ça la différence. Donc, mais maintenant, moi, ce que je déconseille aujourd'hui, de faire la philosophie avec un enfant. Aujourd'hui, nos enfants sont devenus des Jean-Paul Sartre. Donc, si tu commences à discuter, vous pouvez prendre 2 heures de discussion. Ils vont sortir les théories, même qu'ils ont entendues à l'église, dans la prédication. Ils vont sortir toutes sortes de choses pour se justifier. Moi, je dis aujourd'hui, si tu trouves que la philosophie dure plus de 5 minutes, correction. Mais oui, mais bien aimé, parce que sinon, vous allez tourner en rond. Parce que les enfants d'aujourd'hui connaissent beaucoup. Ils connaissent beaucoup. Ils corrigent les fautes des adultes. Ils connaissent beaucoup. Et aujourd'hui, vous savez, on a été contaminé en France par la culture de mai 68 qui consistait à ne plus interdire. Il était, donc la devise de mai 68, c'était « il est interdit d'interdire ». Donc eux, ils s'autorisent à interdire d'interdire. Donc eux, ils ne veulent pas qu'on interdise. Donc ils ne comprennent pas qu'en le faisant, eux-mêmes, ils interdisent. Vous voyez la contradiction, hein? Mai 68, il est interdit d'interdire. Donc eux, ils deviennent dictateurs pour obliger les autres à ne pas interdire. Donc ils ne comprennent pas qu'ils font la même chose que les autres. C'est ça la contradiction de l'humain. Et mai 68 a fait que les gens commençaient maintenant à dialoguer avec un enfant. Mais tu ne peux pas dialoguer avec... Il ne comprend pas les choses bien aimées. Moi, déjà, rien qu'avec les adultes, il y a des mesures que je prends en tant que pasteur. Je ne peux même pas beaucoup dialoguer avec certains frères et sœurs parce qu'ils ne comprennent pas, on n'a pas la même foi et on n'a pas non plus reçu les mêmes instructions du Seigneur. Donc tu vas passer ton temps, il ne comprend rien parce qu'il n'a pas reçu ça du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Donc je sais que certaines choses, je vais discuter avec toi 5 minutes et puis je m'arrête. Je dis seulement, Dieu lui-même montrera que ce que je dis est vrai. C'est tout. Parce que la personne ne va pas comprendre parce qu'elle n'a pas reçu l'instruction du Seigneur, elle n'a pas la même foi que toi et vous allez tourner en rond. Et il y a certaines choses par rapport aux gens qui sont parfois nouvellement mariés, tout ça. Donc c'est des choses, quand vous voulez expliquer, la personne ne veut pas écouter. Il ne faut pas faire des philosophies de 3 heures, 4 heures. Vous dites seulement, bon, il ne reste plus que Dieu lui-même qui va manifester d'une manière ou d'une autre ce que est la vérité. Je compare souvent avec le panneau qui dit, il ne faut pas garer ici, quoi. Donc, tu peux dire ça à quelqu'un, dit, mais il n'y a pas les flics là, moi je me gare. Voilà. Mais tu peux discuter pendant 2 heures, donc tu perds ton temps. Quand il va recevoir une contravention, il va réfléchir. Voilà. Donc il faut comprendre que certaines choses, les enfants ne peuvent même pas comprendre. Et quand on a parlé 5 minutes, 3 minutes, et que la chose continue, on doit prendre des mesures. Et quand on dit correction, ce n'est pas forcément taper physiquement. On peut envoyer au coin, comme on entend ici, on peut envoyer dans une chambre. Mais en tout cas, il faut corriger. L'enfant en a besoin. C'est très important. Oui. L'enfant en a besoin, sinon rien ne va se faire dans la vie d'un tel enfant. Un enfant qui ne se laisse pas corriger, ben, c'est sa perte résolue. Parce que les adultes connaissent la réalité du monde. Les enfants ne connaissent pas. Oui.
Tout à l'heure, tu disais en fait que les enfants... Enfin avaient besoin de correction parce que leurs demandes sont... Enfin, ils demandent des choses qui sont dans leur imagination, en fait.
Oui, oui. Mais en général.
Oui, d'accord. Mais et dans les cas où ce n'est pas de l'imagination, en fait, et qu'il y a quand même de l'autoritarisme, comment tu...
Mais l'autoritarisme, c'est mauvais, ça. On l'a dit. On l'a dit que c'était mauvais. C'est-à-dire que l'autoritarisme, ça consiste à t'imposer que tu aies tort ou raison. C'est ça, l'autoritarisme. Or, l'autorité n'est pas là pour s'imposer tort ou raison. L'autorité est là pour imposer la raison, pour imposer ce qui est vrai. Voilà le but de l'autorité. Quand on est dans l'autoritarisme, ça veut dire qu'on ne respecte plus cette règle-là d'imposer ce qui est vrai, mais on se permet d'imposer même ce qui est mal, ce qui est faux.
Mais ça, c'est dû à quoi l'autoritarisme ? C'est un besoin de...
Il y a des gens qui ont un manque de ressources. Ils ne savent pas comment s'expliquer. Comme mon professeur de physique disait, la colère, c'est le cri de l'homme faible. Voilà, donc il y en a... Bon, il ne sait pas comment expliquer les choses, il se fâche. Il croit qu'en se fâchant, ça va expliquer les choses. C'est cela, et ça n'explique rien. Bon, c'est juste ça, ça mène à l'autoritarisme, parce qu'on veut imposer quelque chose, mais sans effort. Non, donc l'autorité réclame aussi l'explication. C'est pourquoi on dit que l'enfant n'est pas comme un animal. À l'animal, on ne va pas lui expliquer. Mais l'enfant, ça demande parfois une explication. Donc, pour rester que dans l'autorité normale, il faut aussi savoir expliquer à l'enfant. Voilà. Mais que ça devienne un échange qui dure des heures, ou tu as déjà la philosophie, là, tu perds ton temps. Il faut limiter les dégâts. Oui ?
Oui, c'est pour revenir, parce que tu as parlé des cultures africaines et asiatiques. Et c'est vrai que dans la culture africaine, il arrive parfois que l'enfant puisse avoir l'impression que ses parents sont fous. Dans le sens où il y a deux cas. Parfois, tu peux faire des bêtises quand tu es enfant, mais tu sais, quand tu vas rentrer chez toi, la première chose qui va t'arriver, soit tu es tombé, ou bien tu t'es fait mal, ou tu t'es cassé la jambe ou autre, et tu vas arriver à la maison, la première chose qu'on va faire, on va d'abord te taper pour commencer, parce que non seulement tu es tombé, en plus tu t'es cassé la jambe. On va d'abord te taper, et ensuite on va parler. Première chose, donc l'enfant il comprend pas, parfois il se dit mais mes parents ils ont quelque chose qui ne va pas. Ou alors il va faire une bêtise dans la rue et la première chose qu'on va faire c'est appeler des personnes pour le taper pour commencer, donc des personnes qui n'ont rien à voir avec sa famille parfois. Et en plus quand il va rentrer chez lui on va encore le taper non seulement par sa mère, par son père et par ses frères. Donc l'enfant se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en termes d'autoritarisme, est-ce que ça c'est bien ou c'est mauvais, ou est-ce que c'est quelque chose qui produit quelque chose? Je dis ça parce qu'effectivement, nous, on n'est pas forcément devenus des délinquants ou bien des détraqués. Mais c'est vrai qu'on a vécu ce genre de choses.
Oui, je crois que l'objectif dans ce genre de choses, c'est de créer une reconnaissance de ce que c'est qu'un adulte. L'enfant doit respecter un adulte. Moi, je dis toujours une chose, c'est que nous ne sommes pas avec nos enfants partout. Et un enfant impoli, un jour, il se fera massacrer. Alors, autant éduquer nos enfants à respecter tout adulte, de sorte que où qu'il soit, il soit préservé de beaucoup de choses. Maintenant, en cela, il y a des exagérations en Afrique, où finalement, bon... Comme on vient de le dire, ça devient de l'autoritarisme. Il n'y a aucune explication et on ne t'écoute même pas. Voilà. Donc moi, je pense qu'on doit parler, mais ne pas se limiter qu'à parler si ça n'aboutit pas. Parce que le contraire qu'on vit en Europe, c'est que on parle trop et puis à 16 ans, on va trouver un éducateur, payer un éducateur pour l'enfant. C'est ça. Quand l'enfant a 4 ans, 6 ans, on parle trop, 8 ans, on parle trop, et à 16 ans, on l'appelle quoi sur M6, le grand frère. Voilà, donc après, à 16 ans, on cherche le grand frère sur M6. Non, il y avait un boulot à faire à 4 ans, à 6 ans, à 7 ans qu'il fallait faire. On ne l'a pas fait notre boulot, on veut le faire par quelqu'un d'autre. C'est ça que nous déplorons. C'est que ces gens-là qui disent « Ah, il faut dialoguer avec l'enfant » finissent par chercher quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est des démissionnaires. Donc, ils ont été démissionnaires depuis que l'enfant était petit. Ils ne comprennent pas ça. Ils disent, c'est la société. Ce n'est pas la société, c'est toi qui as démissionné. La preuve, c'est qu'à 16 ans, 15 ans, tu commences à chercher un éducateur pour ton enfant. Donc, à un moment donné de ta vie, Tu avais démissionné, il faut reconnaître ça. C'est ça la réalité. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'en Afrique, il y a parfois de l'autoritarisme. Mais en général, on peut dire que le travail qui est fait, c'est de créer le respect de l'adulte, de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Et ça, c'est salutaire, je vous dis la vérité, parce qu'on n'est pas avec les enfants partout. Beaucoup se méprennent parce qu'on est dans un milieu d'église. Mais on ne sera pas tout le temps dans un milieu d'église où les gens excuseront les choses facilement. On ne sera pas tout le temps dans ce genre de milieu. Vous savez, il y a des endroits où on va voir qu'on est en train de taper « Ah, mais ce petit-là est impoli, c'est bien ce qui lui arrive. » Puis tu peux te retrouver à l'hôpital comme ça, tout est cassé, personne n'est intervenu parce que tu es habitué à manquer de respect aux gens. On a fait telle chose, « Ah oui, mais ce petit-là est très impoli, il a compris. » Voilà. Donc personne ne va chercher à te défendre ni à te protéger. Que ce soit à l'école, tu vas avoir un comportement. Et quand tu échoues, tous les professeurs sont unanimes. C'est un enfant impoli. C'est normal. Donc, personne ne cherche à te rattraper. C'est très important de faire en sorte que l'enfant prenne l'habitude de respecter l'adulte. Parce que les adultes, contrairement aux enfants, peuvent jouer des coups terribles. Les adultes peuvent être dangereux, pernicieux, flous. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, non, sur Internet. L'enfant va tranquillement sur Internet. Ben, quelqu'un d'autre se fait passer aussi comme un enfant pour lui. Oh, c'est pas un enfant. Et petit à petit. Et même quand après cette personne-là se dévoile comme étant un adulte, l'enfant s'est déjà engagé, il est manipulé et il s'est fait abuser. C'est ça la réalité. Les adultes sont capables de faire des choses graves. Donc c'est pourquoi on doit habituer l'enfant à écouter les conseils des bons adultes. Ces conseils des bons adultes empêcheront l'enfant de se faire avoir par les mauvais adultes. C'est très, très important. Et c'est ce qui fait aussi une certaine continuité dans la société africaine, alors que dans la société européenne, il n'y a pratiquement plus de continuité, sauf pour les gens qui sont vraiment très riches, qui arrivent à un moment donné dans leur vie à décider à interner l'enfant dans un très bon lycée, il paye tout ce qu'il faut et puis l'enfant est enfermé et il finit par réussir quand même quelque chose. Mais il n'y a pas de continuité en Europe. En Europe, autrefois, quand on était maçon, son fils reprenait l'affaire, on était agriculteur, ton fils reprenait, ainsi de suite, ou bien faisait quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, les enfants font moins que les parents parce que les parents ont démissionné. Autrefois, les enfants faisaient toujours plus que les parents parce que les parents veillaient sur eux jusqu'à les mettre à leur niveau à eux. Ensuite, il restait aux enfants de dépasser les parents. Et c'est ce qui aussi cumulait la richesse dans la famille. Aujourd'hui, quand il y a un héritage, qu'est-ce qui se passe? On se divise. On était à trois, le papa meurt, héritage, on va à la maison, chacun prend ses 20 000 et achète une Mégane. Mais autrefois, quand il y avait héritage, on s'entendait pour qu'un des enfants reprenne ça, poursuive ce que le papa a fait. La maison s'agrandit, le terrain s'agrandit, les choses s'agrandissent, l'usine s'agrandit, parce que deux ou trois enfants ou un a repris avec l'aide des autres pour que... Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Les enfants n'ont plus l'amour familial, ils n'ont plus la conception de faire grandir l'héritage. Il y a la conception égoïste, parce qu'on ne les a pas éduqués. Il n'y a pas eu d'éducation. C'est devenu des hommes seuls. Donc c'est ça la réalité. Nous devons prendre au sérieux toutes ces choses et ne pas négliger quoi. Oui.
Oui, pasteur, c'était juste pour renchérir sur le sujet. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, il ne devrait même pas avoir de débat à ce sujet parce que la Bible est très claire et spécifique en ce qui concerne l'éducation des enfants. Puisque à plusieurs endroits, la Bible donne des recommandations aux parents sur la nécessité et l'obligation. Si je prends par exemple le Proverbe 22, verset 6, où la Bible demande aux parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Là, c'est une responsabilité, c'est une obligation. Et maintenant, en ce qui concerne l'instruction, on sait qu'elle ne peut se faire sans correction. Et en ce qui concerne la correction, plusieurs fois, la Bible met l'emphase sur la verge, qui est un élément très important dans la correction de l'enfant. Toujours dans le même chapitre, on peut le lire, Proverbe 22, verset 15, où la Bible nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Ici, on comprend que ceux qui pensent que se limiter tout simplement à dialoguer avec l'enfant ont échoué à la base, parce que ce serait un peu comme si on est dans la rue, on a affaire à un fou. Certes, les enfants ne sont pas des fous, mais quelqu'un qui n'a pas ses sens et on essaie de le raisonner. On comprend évidemment que ce raisonnement n'aboutira à rien parce qu'il ne peut pas élaborer des éléments, il ne peut pas recevoir...
Il n'a pas ces éléments.
Il n'a pas ces éléments. Donc la Bible est claire, la folie est attachée, c'est bien dit, attachée au cœur de l'enfant. Et c'est la verge de la correction qui l'en séparera, ce n'est pas le
Effectivement.
Dialogue. Ce n'est pas le dialogue ici. Plus loin, si je prends un autre verset, il y en a tellement... Proverbe 29, verset 15, par exemple. La Bible dit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Ça, c'est un autre. Si je prends le verset 17, « Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. » Ils sont tellement nombreux, les versets. Je veux pas
On
tous
va
les parler
citer. Parce que les enfants vont se fâcher.
Voilà. Donc, mais je voulais qu'on comprenne que c'est la parole de Dieu. Et ici, c'est le sage Salomon qui nous donne les recommandations. Donc, ceux qui pensent qu'ils font du bien, ils gâtent leurs enfants en leur épargnant la verge, sont en train de commettre une erreur grave parce que là, ils désobéissent à la parole de Dieu. Ce n'est pas un problème culturel ici. Ce n'est
ils pas désobéissent un aussi aux lois du pays.
Voilà.
Assistance à personne. Voilà. Non assistance à personne en danger.
Donc, voilà. Justement, parce que ici, il ne s'agit pas de, transformer l'enfant en un tambour, bien évidemment. C'est maintenant à pouvoir savoir l'objectif de la correction. C'est de pouvoir aider l'enfant à se retrouver sur le droit chemin. Mais ce n'est pas de la tristesse, comme la Bible le dit.
Voilà.
C'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous nous comportons parfois comme ses enfants. Mais la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime.
Voilà.
Et Dieu nous châtie quand nous commettons des erreurs, quand nous nous égarons parfois. Il ne le fait pas à tout bout de champ. Et même quand il le fait, c'est dans une relation d'amour. C'est-à-dire que l'enfant comprend que ici, c'est parce que j'ai commis une faute que je mérite un châtiment. Ce n'est pas parce que mon papa me déteste, etc. Et après que la correction se soit passée, la relation d'amour entre le parent et l'enfant continue de se passer normalement. Mais je voulais juste réitérer ce fait-là que
voilà,
c'est biblique de corriger l'enfant. Au-delà de toute considération de culture ou de quoi que ce soit, on se réfère à ce que la parole, parole de Dieu nous recommande.
Et ceux qui ne respectent pas ça, ben, se mordent les doigts tôt ou tard, parce que c'est la Bible, il est écrit maudit, le pays dont l'enfant est roi. Aujourd'hui, l'enfant est devenu roi. Et vous savez que ils sont partis très loin, les gens de mai 68. Ils ont supprimé même la dictée à l'école, parce que la dictée, c'est corriger l'enfant va tout grandir dans la langue, mais la conséquence c'est quoi? C'est que ben finalement les gens ne savent plus écrire. On ne peut pas supprimer la correction. Ils ont supprimé tout, on ne classe plus les gens. Allez, donc tout ça c'est parce que il faut surtout pas froisser quelqu'un. Mais non, c'est vrai que on n'est pas, il faut pas froisser les gens, mais il faut aussi corriger. Il faut corriger, parce que c'est par la correction que la personne se redresse et se met sur la bonne voie. Mais attention à l'autoritarisme, attention à la correction qui n'est pas liée à l'instruction, mais qui est juste liée à un défoulement. C'est très dangereux. Beaucoup sont dans cet excès-là. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a excès, qu'il faut arrêter ce qui est juste. Parce que souvent, les gens prient des attitudes en fonction des excès. Ah oui, mais il y en a qui ont tué. Un enfant a été battu jusqu'à la mort. Alors, oui, d'accord, mais c'est des excès. C'est des mauvais comportements. Mais faire les choses dans la juste mesure pour l'aide, pour aider l'enfant, c'est une bonne chose pour son avenir. Ok, le temps passe. Nous prenons notre sujet. C'est Quelque chose qui nous a souvent dérangé, c'est que comment les gens peuvent-ils refuser le salut? C'est quelque chose, un problème, hein? Je dirais, personnellement, je considère que c'est un problème qui dépasse le raisonnement humain. Je ne vois pas d'une manière rationnelle comment expliquer que quelqu'un refuse le salut. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre réponse, mais je ne vois pas comment le salut exposé clairement en Jésus, on le refuse. Mais quand on le refuse, c'est pour faire quoi? Voilà, moi, c'est ça, là, oui, Sophie.
Oui, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil?
Oui, c'est de l'orgueil.
C'est supposer qu'on est assez puissant soi-même pour s'autogérer, en fait.
Oui, mais je te répondrai maintenant à cela. Mais en vieillissant, on ne se rend pas compte qu'on échoue. Et avec toutes les circonstances parfois difficiles de la vie, ne nous rendons pas. Voilà.
Mais du coup, est-ce que le diable aussi ne se sert pas de la vieillesse en disant ben, « c'est peut-être trop tard, tu as peut-être raté
et
ton
donc,
appel ».
Donc vas-y en enfer. Non, ça reste un problème. Ça reste un problème. Hein. Ça reste un problème. On peut dire... Moi, je peux dire que il y a un temps où on ne comprend pas. La réponse première que je peux donner, c'est celle-là. Il y a un temps où on ne saisit pas. On nous parle, mais on ne comprend pas. Ça, je suis d'accord. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 4, en ce moment-là, nous sommes voilés par le Dieu de ce siècle. Donc, en ce moment-là, on nous parle, mais bon, ça passe, parce que c'est comme si on parlait en anglais, en chinois. Voilà, oui.
Est-ce que les gens qui ont acquis, par exemple, qui refusent ce salut, est-ce que en fait, il n'y a pas un problème de se dire, ben, il n'y a peut-être pas l'enfer, il n'y a peut-être pas le paradis, il n'y a peut-être pas de suite après la vie, un manque de foi, en quelque sorte, de comprendre qu'il y a une réalité, que Dieu existe, enfin, un refus, peut-être un refus carrément de reconnaître l'autorité de Dieu, je ne sais pas.
Mais est-ce que là, ce n'est pas... Oui, là, tu as changé encore, parce que... Moi,
non, j'ai dit deux choses.
Soit ah, la, tu as dit deux choses,
de
voilà.
Foi, de croire que...
On est dans le manque de foi, on reste dans ce que j'ai dit avant, c'est qu'on ne comprend pas encore, parce qu'on ne reconnaît pas tout ça. On est encore dans un certain flou. Mais il y en a qui ont bien plus ou moins saisi, notamment tous ceux qui sont passés au travers des églises et qui en sont sortis. Ils ont plus ou moins un moment de leur vie réalisé la réalité de l'enfer, réalisé la réalité du paradis. Oui.
Bon, alors la deuxième chose, c'est aussi refuser l'autorité de Dieu, quoi. C'est la rébellion. Mais c'est ça qui est à l'origine de la séparation de l'homme avec Dieu, c'est la rébellion. Donc,
D'accord. Ce que vous dites là tout est vrai complètement. Donc c'est l'orgueil, c'est la rébellion, c'est le refus d'autorité. Mais quand on compare ça aux conséquences, c'est là le problème. Quand on compare aux conséquences, on se dit, mais comment hein? C'est ce que Paul dit, comment, dans Hébreux 2, 3, peut-on refuser
un si grand salut
quoi? C'est.
Mais est-ce que justement, les personnes qui se retrouvent face à une situation, est-ce que vraiment ils croient aux conséquences? Parce que quelque part, moi, ça m'interpelle, je me dis, mais peut-être que les gens, ils ne croient pas aux conséquences, en fait. Peut-être qu'ils ne se préoccupent pas du lendemain, de ce qui va se passer demain. Ils jouissent de la vie au jour le jour sans s'occuper du lendemain, quoi. Et le lendemain, ça n'a pas d'importance. C'est demain, c'est pas réel peut-être.
Bon, mais comme il y a une promesse que le Saint-Esprit convaincra le monde, le Saint-Esprit convainc tout le monde. Viens un jour, toujours, il convainc tout le monde. Sinon, on dirait qu'il y a injustice.
Là, c'est vraiment une question mystère.
Ah bon, nous continuons là. Ok, Christian.
Oui, le raisonnement que j'entends, enfin, c'est même pas un raisonnement, c'est une affirmation. De toute façon, quand on est mort, il n'y a rien derrière, ni Dieu, ni diable, ni quoi que ce soit. C'est un raisonnement que j'entends même au sein de ma famille. Donc, c'est insoluble. On peut expliquer tout ce qu'on voudra. De toute façon, tout ça, c'est des bêtises, ceci dit en termes chrétiens.
D'ailleurs, cela conduit certains à dire peut-être qu'il y en a qui sont destinés à l'enfer. Oui, vas-y.
Oui, et puis moi, je me dis, nous tous aussi, nous sommes passés par là aussi. Donc, au début, enfin, on a
oui, tous... Oui, mais notre cas, on vient déjà de le citer.
Oui, mais...
Le côté, tu ne comprends pas très bien non plus.
Mais on a été convaincus un jour.
Oui.
Quand même. Donc, du coup, peut-être, on y croyait.
Mais non, mais aussi. La Bible nous informe que l'enfer sera beaucoup plus peuplé que le paradis. C'est ça notre débat. Non. On n'est pas en train de dire qu'il y aura quelqu'un qui ne croit pas un jour, un moment, ne croira pas un jour. Ouais. Cela est possible. Donc, mais il y a une réalité, c'est que l'enfer sera beaucoup plus peuplé que le paradis.
Mais est-ce qu'on peut dire aussi que le temps de Dieu n'est pas encore là pour eux? Est-ce qu'on peut aussi dire ça?
Non, j'ai déjà. Je te réexplique. On ne parle pas des gens qui vont se convertir un jour. On parle de ceux qui persistent et signent jusqu'au bout. Voilà, on parle de ceux-là. Comment cela est possible? Il y en a même sur le lit d'hôpital. C'est-à-dire qu'on lui donne la soupe, mais il refuse Dieu. Or, qui peut nous expliquer ça? On entend les gens inspirés. Là. Oui, Sœur Bernadette, non. Ah, Mireille.
En fait, il y a aussi, il est écrit dans la parole qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc là aussi, on peut se poser la question, il y a beaucoup de gens appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Et en même temps, dans Apocalypse, il est dit qu'il y a ceux qui ont été prédestinés depuis la fondation du monde. Je crois que c'est dans Apocalypse. Quand Jésus dit « Venez à ma droite », ce...
Oui, c'est pas, on sait que ça existe quelque part, vas-y.
Oui, c'est ça que j'allais dire, en fait, c'est ça, il y a une, on peut penser aussi qu'il y a une prédestination. Alors, pourquoi il y a une prédestination? Moi, ça me dépasse, il n'y a que Dieu qui peut répondre à cette question, mais puisqu'il dit...
C'est quoi la prédestination?
Le Seigneur dit « Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus ».
Oui. Donc, c'est quoi cette prédestination? Parce qu'il faut l'expliquer. Maintenant, cette prédestination-là, ça ne veut pas dire que Dieu a décidé qu'un tel ira en enfer, un tel ira au ciel. Mais Dieu, dans sa préscience...
Il connaît le cœur.
Dans sa préscience, il sait qui ira. Mais savoir qui ira, ça ne veut pas dire l'avoir décidé. Voilà, tu peux connaître le score d'un match sans l'avoir décidé. Parce qu'il s'est joué hier, tu as suivi les résultats à la radio, mais la rediffusion dans ton pays, il se fait le lendemain. Donc ça ne veut pas dire qu'en regardant le match, tu sais que ça va finir par 4-1. Ce n'est pas toi qui as décidé que ça finisse 4-1. Donc Dieu est dans cette position de quelqu'un qui sait tout. Voilà.
Ça, en fait, ça sous-entend que... Comment je peux schématiser ça? Par exemple, un être humain, donc on voit, nous, on voit l'apparence, mais dans le cœur de l'homme, il y a celui qui a un cœur pour Dieu, destiné vraiment à se retrouver avec son Créateur et qui a le désir...
Quand on dit destiné, ça veut dire quoi?
Qui, dans son cœur, a le désir de retrouver son Créateur et la communion avec son Créateur.
Et donc, il ne faut pas dire destiné, parce que la Bible nous montre que tous, on a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu.
Oui, donc celui qui, en fait, a le désir de retrouver le Seigneur, de retrouver cette communion avec Dieu. Et puis, il y a celui, en réalité, qui, dans son cœur, n'a pas ce désir-là.
Ah, mais notre question, c'est comment ça peut arriver, ça? C'est ça, notre question. Donc, ça, là, cette description-là, on la connaît, qu'il y a deux camps. Maintenant, comment l'autre camp peut-il vraiment exister?
Ben, Satan existe. Hein. Donc, Satan, c'était un ange de lumière. Il faisait partie du... il était dans le ciel de Dieu, donc si lui-même, il a, à un moment donné, il a voulu prendre la place de Dieu, si lui s'est rébellé, c'est que ça existe quelque part, cette rébellion.
Enfin, non, que ça existe, c'est ce qu'on dit. On veut savoir pourquoi ça existe. Oui, Bernadette.
Moi, je voulais dire, c'est la même, presque même pensée qu'il a Sœur Mireille. Ce n'est pas l'endurcissement des cœurs de l'homme, parce que quand on voit l'histoire de Moïse, il avait Moïse, normalement, Dieu lui a envoyé d'aller sortir les enfants d'Israël. Aussi longtemps, Dieu savait que non, et Pharaon ne va pas laisser les enfants d'Israël partir facilement comme ça, malgré les miracles que voilà, Moïse faisait par rapport à voilà, ce que Dieu lui avait dit. Malgré tout, Dieu disait que non, ben, si tu fais ça, quand Pharaon va voir, et puis Moïse, peut-être, il pensait que non, ben, Pharaon va changer, va accepter de sortir les enfants d'Israël. Mais aussi longtemps, Dieu, lui, savait que non, ça ne va pas être facile, Pharaon ne laissera pas les enfants d'Israël. Pour moi, je pense que non, Dieu, dans sa pensée, il sait, voilà, les gens qui refusent, jusqu'au point où ils meurent, voilà, ils sont mourants.
Oui, mais notre question, pourquoi ces gens-là refusent?
Mais c'est le cœur dur de l'homme. C'est l'ennemi, c'est le diable lui-même qui vit dans le cœur de toutes ces personnes-là, pasteur.
Mais il était aussi chez nous, ce diable-là. Il était aussi avec nous,
mais
autrefois.
Mais nous, autrefois,
quand on dansait
voilà,
des trucs bizarres.
Oui, autrefois, on était vraiment dans les péchés parce qu'on était, peut-être...
Mais avec le même diable.
Oui, avec le même diable, mais Dieu nous a fait grâce.
Mais eux aussi, Jésus est envoyé pour tout le monde.
Mais ils refusent, pasteur.
Mais pourquoi ils refusent? C'est ça notre question.
Mais parce que le cœur dur, nous, notre cœur...
Notre cœur était bon.
Non, non.
Ah,
non,
vas-y.
Nous, au moment où Dieu s'est révélé à nous, on n'a pas fermé la porte. Ou non, on a ouvert nos portes et puis Dieu il est rentré. Donc notre cœur s'était changé, ça a transformé des cœurs de pierre en cœurs de chair.
Donc nous on a ouvert la porte et il refuse. Bon, ok, d'accord. Quelqu'un d'autre, oui.
Moi j'ai juste une question. Je veux juste savoir si les personnes que tu dis qui refusent le salut, est-ce qu'on peut les comparer aux personnes qui acceptent un moment et qui quittent et qui ne reviennent pas?
Pas forcément. Il y en a qui n'accepteront jamais.
Oui, mais comme celui qui n'accepte pas du tout, comme dit Christian, bon, non, pour eux, ça n'existe pas déjà, et celui qui un jour est entre guillemets, bah, c'est pas converti finalement, puisqu'il a quitté, par exemple, il a cru, et maintenant, il ne croit plus ou il veut plus, à la fin, les deux auront le même... Ils iront en enfer tous les deux, puisqu'ils ont refusé.
Oui.
Et ce sont les mêmes personnes, à la base? Est-ce qu'ils ont le même...
Le même cœur?
Oui,
Non, parce que non, moi je pense qu'ils ont tous deux refusé. Ils ont refusé.
Donc même celui qui avait accepté au départ.
Il l'a refusé finalement. Il l'a refusé finalement. Oui, Christian.
Oui, en fait, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette négation, c'est le néant qu'il y a derrière. Mais pourquoi arriver à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans, parfois à 70 ans, et calé devant cette réalité. Donc il y a un endurcissement qui se fait et bon, on ne veut pas avouer qu'on a raté quelque chose.
Mais pour gagner du temps, je crois qu'il y a un mot qui est sorti à plusieurs reprises, endurcissement. Ça nous aide un peu déjà à comprendre que quand on refuse quelque chose avant, on s'endurcit pour la suite. Il y a un petit processus là qu'on saisit quand même un peu. Voilà, dire mais... Parce que moi, dans ma tête, je me dis, bon, à 75 ans, à 80 ans, à 85 ans, bon, ou bien sur le lit d'hôpital, c'est la défaite. Bon, même fait au moins semblant de croire à Dieu, je ne sais pas quoi. Tu sais, t'es dans la défaite, reconnais ça, quoi.
Reconnais, ça ne coûte rien.
Voilà, ça ne coûte rien. C'est ça que tu es incapable de parce qu'on pourrait comprendre quelqu'un qui est encore fort, beau, physiquement, il peut courir, il peut faire des choses, mais tu n'es plus capable de faire même des choses. Mais c'est de quoi? Mais donc je crois que là, on a une explication, c'est qu'il y a eu un endurcissement progressif qui après te rend insensible alors que tu es dans la bonne position pour être sauvé. Voilà, donc il y a déjà un peu d'éclairage, oui. Jean-Philippe.
Non, oui. C'est moi. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que. Attendez, je vais du coup.
Oui, donc on passe à quelqu'un d'autre le temps que. Est-ce qu'on doit clôturer là?
Il y a un prix à payer.
Oui, et alors?
Et alors, ça veut dire qu'il faut renoncer à quelque chose.
Oui.
Bon, même sur le lit de mort, il faut qu'il renonce à son orgueil, qu'il reconnaisse qu'il a échoué. Il y en a, ils ne veulent pas.
Oui, mais notre question, c'est que comment tu peux accepter et rester comme ça au lieu de saisir? C'est comme s'il y a le feu, il y a les pompiers qui sont là. Tu dis, moi, je veux des pompiers avec des camions bleus, je veux pas des camions rouges.
C'est
ça, quoi. On comprend pas comment quelqu'un peut être dans le feu. Il dit, mais non, moi, je veux les camions bleus.
Mais c'est le principe.
Or, en France, c'est seulement les camions rouges. Voilà.
Un exemple concret. Par exemple, on a... Je pense au philosophe Michel Onfray, par exemple, qui lui a écrit un bouquin en disant qu'il était pour l'athéisme en France, etc. Donc c'est un peu le représentant. Mais si lui, donc il a écrit des livres, tout ça, il s'est impliqué. Mais donc plus il s'est impliqué, donc si un jour il doit reconnaître, c'est l'humiliation totale. Parce qu'il y a vraiment eu un... En fait, si il est cohérent jusqu'au bout, il va aller... Mais accepter de reconnaître qu'on a échoué alors qu'on a écrit des livres là-dessus et tout ça, pour lui, ça va être très dur. Il va falloir vraiment qu'il accepte de renoncer à son orgueil. Donc il y a un prix à payer.
Ce prix-là, il y en a qui refusent de le payer. Mmh. Maintenant, notre question, quand on voit ce qu'ils loupent, on se dit, mais comment ils peuvent refuser ça? Parce que, écoutez, on va essayer de résumer le salut. C'est que on se rend compte qu'il y a en nous quelque chose qui détruit et qui dépérit. Que ce soit le mal qu'on puisse faire, mais qu'il y a les échecs, il y a les incapacités. On va nous trouver incapables de quelque chose quelque part, avec une déficience quelque part. Il y a le vieillissement. Et il y a le fait qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, la voiture qu'on veut, la maison qu'on veut. Il y a tout ça qui est réuni. Et puis, une éruption volcanique, tout ça, il y a plein d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Et avec ça, on peut subir un accident à un moment ou à un autre. Comment, après qu'on nous ait proposé le Dieu qui a fait les cieux, la terre pour s'occuper de nous, on peut quand même refuser. C'est ça.
C'est simple, ils refusent parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a quelqu'un qui leur est supérieur.
Et qui va diriger leur vie.
Qui va diriger leur vie. Donc c'est toujours l'orgueil.
Ok, quelqu'un d'autre ?
Oui, tu parles d'endurcissement. Maintenant, je voudrais comprendre qu'est-ce que tu appelles par endurcissement, parce que nous-mêmes, on ne s'est pas convertis dès la première fois qu'on a entendu prêcher. Donc, quelque part, tu peux dire que nous-mêmes, on s'endurcissait à chaque fois.
Ah non, pas forcément. On n'a pas dit forcément oui, mais on n'a pas dit non plus non. Attention, donc il y a des gens qui n'ont pas dit oui, mais qui ont dit oui dans le cœur en quelque sorte, qui ont laissé cette parole-là continuer à les travailler. Moi, il y a quelqu'un, je crois qu'on était parti célébrer un mariage, je crois, à Paris, c'était en quelle année ? En 2010, un mariage à Paris. Il paraît qu'il y avait quelqu'un qui était là-bas, qui jusqu'à aujourd'hui en a après moi. Parce que j'avais prêché que, bon, j'ai parlé de l'enfer, j'ai parlé du salut. Donc, cette personne, jusqu'à aujourd'hui, est en colère, parle de moi. Alors, est-ce que vous pensez que cette personne-là dit vraiment non? Je ne crois pas. Parce que si elle avait dit non, elle m'aurait oublié. Ça fait 2 ans quand même. Mais elle ne m'oublie. Elle m'a vu que cette fois-là, et j'avais prêché au feu, j'avais expliqué qu'on était comme dans un monde qui brûle. Comment on peut te proposer la main pour sortir? Tu refuses. Tu cherches les livres de physique. Alors, tout ça, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas oublié. Elle raconte aux gens qui l'avaient invité, vous m'avez piégé. Voilà ce monsieur-là. Donc jusqu'aujourd'hui, elle n'oublie pas ce jour-là. Ça a gâché sa vie. On ne peut pas dire que réellement cette personne a dit non. Ce qu'on peut dire, c'est que elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit non plus oui. Elle est dans un état où elle est travaillée par ça, quoi. Voilà. Oui. Qui d'autre a le même? Voilà, donc, pour clôturer, moi je pense que, fondamentalement, bien-aimé, on ne peut pas comprendre. Ce qu'on peut dire, comme les bien-aimés l'ont dit, c'est l'orgueil, le refus de laisser Dieu être son chef. Vouloir mener sa vie. Mais moi, je dis même, dans le vouloir mener sa vie, tu sais bien qu'en menant ta vie par toi-même, il n'y a pas la réussite assurée. On voit les Lance Armstrong où ça aboutit. On voit les Sarko là où ça aboutit. Donc, on n'est pas assuré de cette réussite-là, même avec le diable, on n'en est pas assuré. Il y a les Mobutu, les Staline, les Hitler qui ont précédé, les gens les plus méchants. On a des exemples historiques. Là, la réponse vient un peu, il y a un endurcissement progressif qui fait que l'évidence n'est plus vue comme telle. Voilà. Mais toujours est-il que ça restera fondamentalement un mystère. Comment quelqu'un peut refuser ? Le constat que les gens soient mauvais, ça, il n'y a pas de problème. Qu'ils soient orgueilleux, oui. Mais entre, puisque nous tous on était orgueilleux, entre ton orgueil et ce qu'on te propose, sachant que ce que ton orgueil même te commande n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr. On connaît des professeurs qui oublient des chaussettes.
professeur de maths. Moi, j'avais un professeur de maths, de la théorie des corps, mais qui était devenu presque fou. Mais donc, quelque part, l'homme est rien, quoi. Mais comment, voilà, oui.
Mais justement, avec l'expérience des gospel singers, quand vous allez dans une maison de retraite, combien se tournent vers Jésus ? Que là, manifestement, qui manifestent qu'ils ont été touchés et qu'ils vont vraiment se convertir. On les voit, ils sont tous là.
Oui, là, ton idée d'endurcissement vient. Oui. Parce que c'est des gens qui, malgré tout, se disent, bon, l'État est devenu mon maître. J'ai un employé qui me donne la soupe. J'ai ceci. Un jour, j'ai vu à la télé une personne qui passait dans les hôpitaux chanter pour les gens, pour leur faire du bien. Et puis, la dame, elle était impotente. Et après que la personne ait chanté, elle dit, tu veux que je te signe un chèque? Donc, cette dame, malgré son impotence, peut signer quand même un chèque. Donc, elle se sent forte. Donc, un orgueil, endurcissement, qui n'a fait que s'installer au fil du temps, ce qui fait que ce qui pour nous est évident qu'elle a échoué, elle ne le voit pas encore comme un échec parce qu'elle peut signer encore des chèques. Ça, c'est l'endurcissement, répond à cela. Mais quand on va toujours à fond, quand les choses deviennent claires, comment les choses sont claires, que l'homme n'est rien, l'homme est petit, tout ça, mais tu arrives quand même, on aurait compris dire, je laisse ça réfléchir à moi. Non. Là, nous parlons des gens qui, jusqu'au bout, maintiendront leur position. Là, bien-aimé, oui, peut-être qu'il y a un éclairage qui vient du ciel. Vas-y.
Oui, tu parles là des personnes qui ont un endurcissement qui s'est maintenu et qui s'est affermi tout le long jusqu'à la fin de leur vie. Mais pour des personnes, par exemple, qui sont jeunes, ils n'ont pas forcément eu le temps d'avoir... d'emmagasiner beaucoup de... Enfin, tu me comprends, non ?
Oui, mais si, l'endurcissement n'est pas lié forcément à l'âge. L'endurcissement est lié au nombre de fois que l'on dit non. Quand plus on dit non, plus le cœur s'endurcit. Plus on dit non à Dieu, plus le cœur s'endurcit. Pharaon, quoi. Pharaon, ça n'a pas duré forcément 50 ans. Plus on dit non, le cœur s'endurcit. Et ce qui est évident, pour toi, ne l'est plus. Ne l'est plus. Vous vous imaginez Jésus-Christ qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, mais les gens sont contre lui. Il ne demande aucun argent à quelqu'un. Il ne demande rien. Il dit, aimez-vous. Mais il était Dieu lui-même en personne, mais rien. Rien. Il y a des têtus qui étaient là. Allez, on doit payer l'impôt à qui ? Donc, on se demande, mais comment est-ce possible ? Moi, je pense que le minimum, c'est de dire, ah, ce type-là est dangereux. On préfère encore les démoniaques, les gens qui ont perdu leur cochon. Et ils ont eu peur. Ils ont fui. On comprend un peu quand même, mais des gens-là, comme les pharisiens, bon, dis-nous. Mais je dis, mais non, devant quelqu'un qui ressuscite un mort, qui guérit un aveugle né, je pense que, admettons que c'est faux, je respecte quand même. Et si je ne peux pas expliquer tout ça, je préfère me taire. Mais s'opposer comme ça. Et il y a aussi une petite explication de la Bible, puisqu'on les appelle les fils du diable. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je crois que ça va nécessiter notre séance. Oui, oui.
Justement, je voulais dire que ça, c'est quand même une question qui nous dépasse dans la mesure où, si on regarde Satan, il avait tout ce qu'il fallait auprès de Dieu. Il avait une bonne place et tout. Et il a quand même voulu, malgré tout, rivaliser avec Dieu et prendre sa place. Donc c'est lui qui est à l'origine du mal qu'il y a sur cette terre, et c'est lui qui a contaminé l'homme par son péché et par sa méchanceté. Donc ça nous dépasse, nous, quoi, puisque ça existait déjà, c'était déjà dans le cœur de Satan, quoi. Donc il y a des choses qui nous dépassent, je trouve que...
C'est ce qu'on appelle dans la Bible le mystère de l'iniquité. Donc c'est le mystère du mal. À un certain moment, on va donner des arguments, des explications, mais il y a quand même une partie de mystère. Parce que ce n'est pas logique. Ce que nous disons là n'est pas logique. On ne peut pas refuser le salut. C'est illogique. C'est ce que la Bible appelle la folie. Oui.
Oui, nous, est-ce qu'on peut savoir si une personne a dit non ou si, bon, elle a dit ni oui ni non ?
Oui, on peut le savoir.
Mais comment tu peux le savoir ? Parce que nous-mêmes, quand on nous parlait, on disait non.
Oui, mais moi, je peux savoir que quelqu'un dit non en réalité. S'il dit non, il a dit oui en quelque sorte.
Oui, d'accord, tu peux savoir parce que tu as été éclairé par le Seigneur. Mais oui. Je veux dire, une personne comme ça, tu ne peux pas savoir si...
On ne peut pas savoir pour tout, mais il y a beaucoup de cas. On peut savoir, par exemple, là, une dame, ça fait 2 ans, tu n'as vu qu'une seule fois prêcher. Je n'ai même pas critiqué parce que j'aurais critiqué les catholiques encore. D'accord ? Je n'ai même pas critiqué le catholicisme, je n'ai pas critiqué le catholique, je n'ai parlé que du salut de l'homme. Mais ça fait 2 ans, cette dame, dès qu'elle voit les gens qui l'ont invité au mariage, il faut qu'elle parle de moi.
Oui, donc pour toi, cette dame-là, elle ne pourra pas dire non. Un jour, elle
dira forcément non. Non, pour moi, cette dame-là va se convertir.
Obligée.
Parce qu'elle n'a pas fermé sa porte à Dieu. Elle n'a pas fermé sa porte. Elle est en train de dire à Dieu... Oh, te suivre, c'est dérangeant. Hein. Mais j'ai envie, mais... Bon. C'est ce que le Seigneur a dit à Paul. Paul, arrête de résister, de régimber sur les aiguillons. Je crois que Paul sentait bien qu'il fallait qu'il suive les chrétiens. Mais il se disait, mais tiens, moi je suis pharisien quand même. Alors, sa solution, c'était de combattre les chrétiens. Peut-être que cette envie-là s'en ira. Mais malheureusement, ce n'est pas parti toujours. Oui.
Oui, pasteur. Donc, des personnes comme les Voltaire qui eux, vraiment, qui ont combattu le Seigneur, est-ce que vraiment c'était un vrai combat ? Est-ce que c'était une véritable opposition ? C'était devenu ennemi de Dieu ? Ou est-ce que c'était des personnes qui voulaient, mais en fait qui.
Non. Eux, c'est des fils du diable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans cet endurcissement-là, deviennent fils du diable. C'est-à-dire qu'ils ne se convertiront plus. Ils sont vraiment dans la cause du diable. D'ailleurs, parfois, il y a certains, on a vu au Congo, tu lui parles de l'enfer, il dit non. En enfer, c'est une boîte de nuit. On sera bien là-bas. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a décidé d'aller en enfer, croyant que c'est une boîte de nuit. Mais il va se rendre compte que c'est un volcan. Voilà. Et il y a des gens qui vous disent non, 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 c'est nous qui allons dominer sur Dieu. Donc, il y a des gens vraiment qui sont devenus fils du diable, qui pensent vraiment que la logique de la bonté, de l'amour, de Jésus, tout ça, c'est inférieur au diable. Donc, il y a beaucoup qui deviennent ainsi fils du diable, et chacun à son niveau, quoi. Oui.
Oui, dans le cas de cette personne qui te déteste tant, on peut dire, sans exagérer, que la porte effectivement est ouverte, parce que c'est ce qui mène à l'amour, parce que c'est très, très, très voisin de détester quelqu'un, détester Jésus, détester quelqu'un, détester l'enfer, c'est très proche.
Parce que si tout ça, au fait, la question est la suivante. Si tout ça est faux, pourquoi ça t'embête ? Donc si ça l'embête autant, c'est qu'elle a considéré quelque part que c'était vrai. Mais elle a une réponse à donner à ça. Voilà. Son pire... subconscient a accepté que c'était le vrai message, mais sa conscience peine à dire oui. Et sa conscience est en colère parce qu'il s'est dit, je ne peux pas non plus dire non. Parce que ce que j'ai entendu est vrai, après tout. Voilà. Mais dire oui, ça va m'enlever ma liberté.
Le pire, voilà. C'est ceux qui n'éprouvent rien.
C'est ça.
C'est parce que Dieu le dit bien, et il vomit les tièdes. S'il a affaire à un dur ou à quelqu'un qu'il aime, bon, c'est une autre... Mais ceux qui sont au milieu, qui n'éprouvent rien, ce sont les plus difficiles à convaincre, en fait.
Bon, il y en a qui n'éprouvent rien au début, mais après, ils vont éprouver quelque chose. Mais ceux qui, comme quelqu'un dit, qui goûtent, mais qui restent toujours, voilà. Ceux-là, bon, un jour, ils finiront par attaquer Dieu. Oui, on clôture en priant parce que...
Pasteur, je voulais juste poser une question par rapport à quand tu dis le fils du diable. Parce que effectivement, on a beaucoup d'amis comme ça qui sont fermés à l'évangile et puis qu'ils trouvent que l'enfer n'est pas une réalité et qu'ils plaisantent même, au lieu même de dire « oui, moi je préfère être au ciel », mais ils préfèrent dire « je préfère aller à l'enfer » et ils trouvent ça que c'est un sujet de joie. Mais est-ce qu'ils sont considérés comme fils du diable ou
Non, pas forcément. Il y a des gens qui le font vraiment par ignorance, par humour, jusqu'à ce que la lumière brille dans leur cœur. Quand j'ai dit fils du diable, c'est des gens qui se sont engagés à combattre, à se battre. Voilà. Maintenant, il y en a qui se battent parce que quelque chose les dérange. Mais il y en a qui se battent parce qu'ils sont... Je vous donne l'exemple de Paul. Paul se battait, quelque part, il était dérangé, mais sans vouloir détester Dieu lui-même. Paul n'allait jamais dire, par exemple, que voler c'est bien, ou bien haïr c'est bien, tu vois. Mais ce qui le dérangeait, que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur, bon, ça, c'est le dérangeait. Mais nous voyons aujourd'hui des gens qui, non seulement ils attaquent les chrétiens, mais ils attaquent tout ce qui est bon, tout ce qui est pur. Donc ils sont vraiment fondamentalement contre Dieu. On peut comprendre encore quelqu'un qui dit « j'attaque les chrétiens parce qu'ils disent Jésus-Christ est le Fils de Dieu » pour parce qu'il ne comprend pas encore ça. Mais il aime l'amour, il aime la justice. Mais il y en a qui, non seulement ils attaquent les églises, ils attaquent l'église, ils attaquent les chrétiens, mais dès qu'ils te voient avoir un comportement de sagesse, ça les irrite encore. Voilà. Donc là, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment anti-Dieu. Là, c'est autre chose. Bref, c'est pas facile à comprendre tout ça. Toujours est-il que nous-mêmes ne tombions pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des tentations. Nos corps peuvent éprouver de la faiblesse. Mais disons toujours à Dieu, c'est toi que j'ai choisi. Viens à mon secours, aide-moi. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces sujets qui ont été traités. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à ne pas tomber dans l'orgueil qui consisterait à négliger tes avertissements ou à négliger de crier au secours quand nous sommes dépassés. Seigneur, fais que le jour où nous nous sentirons mal, nous nous sentirons défaillir, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Il sentait qu'il était livré et que la mort arrivait, mais il a quand même cru à la résurrection. Seigneur, que le jour où nous nous sentons à terre, nous ne puissions pas nous dire, ah, après toutes ces choses, ça n'existe pas. Bon, que nous puissions faire comme Pierre qui a dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous te disons, où irions-nous? Même si parfois nous ne semblons pas satisfaits de notre vie chrétienne, mais nous ne voyons pas autre part où aller que rester avec toi. C'est ce que nous te le disons aujourd'hui. Les gens qui sont au milieu de nous, Seigneur, qui refusent de céder à toi, agis, Jésus, agis pour les convaincre dans ton amour et dans ta bonté. Nous t'en prions. Que cette année soit une année de beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversions. Car ce que nous venons de dire est une réalité. Notre raisonnement n'arrive pas à saisir ce problème. Ça veut dire que la solution aussi se trouve que dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit nous fasse de la joie cette année en nous procurant beaucoup, beaucoup de conversions au milieu de nous, dans nos familles et autour de nous. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.